Bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs, je vous souhaite un très agréable sabbat. J'aimerais aborder aujourd'hui le sujet du pardon en vous livrant tout d'abord trois citations de personnes ayant marqué le XXe siècle. La première est de Mohandas Gandhi, celui qu'on appelait en Inde le Mahatma, c'est-à-dire le Vénérable. On l'appelait aussi le père de la nation indienne. Gandhi prônait, nous le savons, la non-violence et il disait « Le faible ne peut jamais pardonner, le pardon, c'est l'apanage du fort. » Une deuxième citation complémentaire à celle de Gandhi, c'est celle d'Albert Einstein, le célèbre astrophysicien. Il disait « Les faibles se vengent, les forts pardonnent, les intelligents ignorent. » Et enfin, une troisième citation, celle de l'abbé Pierre, l'une des personnalités les plus marquantes dans l'esprit des Français, il disait « Le pardon n'exclut pas la justice ». En d'autres termes, le pardon, la justice, en fait, apporte la touche finale au pardon. Et en disant cela, bien sûr, l'abbé Pierre pensait évidemment à la justice de Dieu. Que devrions-nous penser de ces trois citations? Et au final, qu'est-ce que le pardon? Le pardon est-il humainement, vraiment, sincèrement possible? En disant cela, je n'insinue pas que le pardon total et sincère soit impossible pour les êtres humains. Dieu nous demande de le faire. C'est donc que nous pouvons y parvenir. En revanche, tout réside dans la méthode. Comment allons-nous nous y prendre pour réussir à pardonner? Avant d'entrer dans les détails de cette considération, voyons quelques exemples bibliques sur le pardon, avec pour commencer l'exemple que Dieu nous donne. L'un des récits historiques les plus connus de la Bible, dans le second livre de Samuel, au chapitre 11, 2 Samuel 11, c'est celui, bien sûr, du roi David et de son aventure avec une femme extraordinairement belle, Bathsheba, ou encore Bethsabée, dans la Tanakh, la version du rabbinat français. Elle était belle, selon une version francophone, au plus haut point, dit donc une autre traduction française. Et David était roi d'Israël. En tant que tel, son pouvoir dans beaucoup de domaines n'était pas loin d'être absolu, selon la terminologie historique et humaine. David désirait Bethsabée. Il voulait la prendre pour femme. Mais Bethsabée était mariée. Elle était mariée à Uri, un officier étranger de l'armée d'Israël, et pas n'importe qui, c'était l'un des hommes de la garde rapprochée de David, l'un des 37 vaillants hommes, ils devinrent 80 plus tard. Mais Uri était l'un d'entre eux, un combattant hors pair, trié sur le volet. Alors pour le roi David, comment faire? Qu'à cela ne tienne, il avait ce pouvoir, et dans son esprit, le complot commençait à se mettre en place. Bethsabée, pensait-il, était à sa portée. Et finalement, ce qui risquait d'arriver arriva. David commit l'adultère avec elle, et quelque temps plus tard, Bethsabée lui apprend qu'elle est enceinte. Or, son mari, Uri, était loin de Jérusalem à ce moment-là. Il était en campagne contre les ennemis d'Israël. Comment faire? Dans l'esprit de David, il fallait évidemment tout de suite que Uri revienne, toutes affaires cessantes, et qu'il passe du temps avec sa femme, afin que l'enfant à naître, bien sûr, puisse passer pour celui de son mari légal. Et qu'ainsi, évidemment, aucun scandale ne puisse éclater. David fait donc porter un ordre au commandeur de l'armée d'Israël, Joab, lui enjoignant de lui renvoyer Uri, le mari donc de Bethsabée. Et quand celui-ci se présente devant David, il fait son rapport militaire, bien sûr. David lui pose des questions sur la situation sur le terrain. Et David pense que tout va bien se passer. Il surveille de loin la soirée de Uri, pensant que Uri va, bien entendu, rejoindre sa femme dans ses appartements. Or, il n'en est rien. Uri, par esprit d'humilité, par esprit de service. Rappelez-vous, c'est un fidèle garde du corps de David. Uri va passer la nuit avec les serviteurs de David. Il ne va pas rejoindre sa femme. Donc, David décide alors, à ce moment-là, de lui faire passer une seconde journée à Jérusalem, et il va s'assurer que le soir même, Uri va pouvoir avoir un bon repas, bien arrosé, et qu'ainsi, il sera évidemment tenté de revenir auprès de sa femme et d'avoir des rapports avec elle. Il n'en est rien. Uri reste une seconde nuit avec les serviteurs du roi, et le lendemain matin, il repart, bien entendu, en campagne. David n'hésite plus, il ordonne alors à Joab de placer Uri au plus fort de la bataille, dans des conditions telles que l'officier n'aurait strictement aucune chance de s'en sortir vivant. Et il s'agit, bien entendu, d'un ordre avec un meurtre prémédité. Les ordres sont exécutés, Uri meurt au combat, et non seulement lui, mais plusieurs serviteurs de David sont également tués dans cette affaire. Bethsabée apprend ensuite la mort de son mari, elle le pleure, elle prend le deuil, et le deuil à l'époque peut être, selon les commentaires, on nous dit, d'une semaine à un mois. Ce que David va faire, c'est qu'au terme de son deuil, il prend Bethsabée dans ses appartements et il l'épouse. Tout semble donc rentrer dans l'ordre pour David. Mais Dieu a vu tout ce qui s'est passé, bien entendu. Et nous aussi, en lisant le chapitre 11, nous sommes a posteriori les témoins de ce qui s'est passé. Nous avons tous les faits qui nous sont comptés dans cette affaire. Quel est notre degré d'indignation par rapport aux actions de David? Il est probablement très grand. Le dernier verset du chapitre 11 dit ceci: « Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. » Quand on lit ces mots, nous pouvons nous douter que les choses ne vont pas en rester en l'état. Et c'est effectivement ce qui va arriver. À la suite de ces événements, en effet, Dieu envoie le prophète Nathan auprès de David pour une confrontation, les yeux dans les yeux. Et Nathan, sous l'inspiration divine, va employer une méthode narrative très brève, mais très efficace. Il relate à David un fait, disons un fait divers, mais d'importance quand même. Il lui parle d'un riche qui avait de grands troupeaux et qui, ayant organisé un festin pour un invité de marque, va prendre une brebis. Mais il ne va pas prendre l'une de ses brebis, il va prendre une brebis qui appartient à un pauvre, soit un serviteur, soit quelqu'un qui était dans la maison et qui n'avait qu'une brebis. David est immédiatement indigné et il réclame même la peine de mort pour un tel exemple. Et Nathan, à ce moment-là, va lui dire exactement le fond de sa pensée. David est loin de se douter de ce qu'il va entendre. Nathan lui dit « Tu es cet homme-là » dans 2 Samuel chapitre 12, verset 7. 2 Samuel 12, 7. Imaginez le coup de tonnerre. David reçoit cela en pleine figure et Nathan de poursuivre en rappelant à David tout le détail de ce qu'il a fait et il lui annonce la sentence que Dieu a prononcée. Dieu a pris une décision. C'est à ce moment-là que David réalise l'ampleur de ce qu'il a fait. Prenons le récit au chapitre 12, 2 Samuel 12 et au verset 13. 2 Samuel 12, 13, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. » En effet, David méritait la mort à deux titres. Il avait commis un adultère qui était puni de mort, selon la loi, et en plus, il avait commis un meurtre prémédité, là aussi, peine de mort, selon la même loi. Dans Nombre, chapitre 35, verset 30, je ne m'y reporte pas. Donc, à ce stade, on pourrait se poser la question de la justice envers la famille d'Uri, envers la famille de la victime. La Bible ne mentionne pas le détail de sa famille. Nous ne savons pas quelle était la famille d'Uri, en dehors bien entendu de Bethsabée, son épouse, mais nous lisons que Dieu n'a pas laissé les crimes de David impunis. En tout cas, le péché de David a eu des conséquences dans sa vie. Et de cela, nous devons bien entendu nous rappeler. Parmi ses nombreux enfants, David perdra en effet 4 fils, au moins, dont l'enfant de Bethsabée, qui n'est pas nommé. Donc, suite à l'adultère de David avec Bethsabée, son premier enfant va mourir. Amnon, ensuite, coupable d'un inceste, sera également tué par Absalom, qui lui aussi mourra de la main du commandeur de l'armée. Et puis aussi, après la mort de David, un autre fils périra dans des circonstances indignes, Adonia, qui tentera de demander la main de la concubine de son père, afin de renverser Salomon. 4 destins tragiques, dont 3 du vivant de David, c'est beaucoup de chagrin, c'est beaucoup de peine, beaucoup de souffrance, et finalement un prix très lourd à payer avec des meurtres et des crimes sexuels pratiqués par sa descendance. Donc vraiment pas beaucoup de gloire. Cependant, la réaction de David, et c'est sur cela que nous voulons aussi nous concentrer, la réaction de David, qui change beaucoup de choses, qui en tout cas lui donne l'espoir de la vie, cela nous montre de façon condensée ce que Dieu attend de nous et aussi comment Dieu exerce le pardon. Dieu nous montre l'exemple dans ce domaine. Qu'est-ce que Dieu est disposé à faire pour nous ? Il a fait beaucoup pour David déjà. Il a accepté que David puisse continuer à vivre. Dieu nous fait la démonstration de ce qu'est le pardon. La réaction de David face à ses péchés, sa confession, sont une illustration de ce que Dieu nous dit dans sa parole, la Bible, dans le psaume 103, verset 12. Psaume 103, le verset 12. Il nous est dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il, l'Éternel, éloigne de nous nos transgressions. » Et verset 13 « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Donc Dieu ne reste pas inactif. Quand Dieu pardonne nos péchés, il les efface définitivement. Ils ne nous seront plus jamais reprochés, attribués. Ils ne seront plus même rappelés dans nos mémoires. Dans les mémoires. Nous risquons de nous en rappeler, nous, par contre. Dieu Tout-Puissant, lui-même, ne se souviendra plus des péchés qu'il aura décidé de pardonner. En effet, il est dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 8, verset 12, Hébreux 8, 12, « Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Dieu a cette puissance. Il a cette puissance de décider de quoi il voudra se rappeler. Et concernant les offenses pour lesquelles nous avons demandé pardon, Dieu a décidé de ne plus s'en souvenir, à un moment donné dans le futur, ou peut-être, puisque là il est question d'un verbe au futur. Cette citation dans Hébreux 8, 12, c'est une citation de l'Ancien Testament, trouvée dans le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 34. Jérémie 31, 34. Ce n'est pas une petite chose. Jérémie, dans le chapitre 31, parle en effet de la nouvelle alliance en Christ, possible dès son premier avènement et dès son sacrifice sur le poteau, sur la croix. Un sacrifice qui nous réconcilie avec Dieu. Un sacrifice, c'est quelque chose de tellement grand, ça ne peut pas être mesuré, ça ne peut pas être comparé. De cette façon, grandiose, Dieu nous montre l'exemple. Il nous demande donc de faire de même dans nos vies et de pardonner. Avec son aide, avec sa puissance, tout devient possible si nous avons ce désir d'entrer dans la grande famille de Dieu, dans l'immense famille de Dieu. L'apôtre Jean a résumé ce qu'il nous faut faire quand on a péché, quand on a commis une faute contre la loi de Dieu. Il faut que le repentir prenne place. Alors, qu'est-ce que le repentir ? Dieu nous aide à changer d'attitude, c'est le sens du mot repentir. Nous changeons de comportement, nous reconnaissons nos torts et nous changeons d'attitude et d'action. Dieu ne nous laisse pas seuls dans cette recherche de changement d'attitude. Et ce qui est absolument merveilleux, c'est qu'après ce repentir, après ce changement d'attitude, nous qui sommes pécheurs, tant que nous sommes vivants, nous avons le réconfort de recevoir le pardon divin. Et dans sa première épître au chapitre 1, Jean nous dit ceci, 1 Jean chapitre 1, versets 9 à 10, 1 Jean chapitre 1, versets 9 à 10, il écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Donc, nous avons cette certitude. Nous savons que nous sommes pécheurs et nous savons que nous devons savoir ce qu'est le péché, qu'est-ce que c'est le péché, et nous devons en demander pardon à Dieu. Et nous devons ensuite, bien entendu, changer d'attitude. Je reviendrai à plusieurs reprises sur ce mécanisme qu'il nous faut bien comprendre dans nos vies. C'est quelque chose de primordial. Lorsque Dieu a expliqué à David, par la voix du prophète Nathan, dans quelle situation lui, David, se trouvait, sa réaction a été la bonne. David a eu la bonne réaction. Et cette réaction est en fait la clé du pardon divin, comme je l'expliquais. David a reconnu ses faits, il a reconnu ses fautes, et Nathan savait, grâce à l'Esprit de Dieu, ce qui s'était passé. Dieu, donc, nous pardonne nos péchés quand nous les confessons devant lui. Sans autre intermédiaire, sans autre témoin indiscret, nous n'avons pas besoin, en effet, de déballer notre vie privée devant qui que ce soit, si nous souhaitons garder ces choses privées entre nous et Dieu. Et de cela, nous pouvons être reconnaissants. Dieu ne nous demande pas de faire appel à un intermédiaire, ce n'est pas biblique. Dans sa parole, Dieu nous demande d'avoir cette relation avec lui et dans la foi en Christ, dans la foi de Jésus-Christ, confier nos actions pécheresses à Dieu. Et lorsque nous reconnaissons ces choses et que nous décidons de changer de comportement, nous avons cette certitude que Dieu nous a pardonné. Dans le psaume 51, nous lisons le détail de ce que David dit à Dieu, précisément. Et nous voyons à quel point David était sincère lorsqu'il parlait à Dieu et qu'il lui avouait ses fautes. Ce n'est pas un faux repentir, c'est un vrai repentir. Dans le deuxième chapitre du livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre s'adresse à la foule à Jérusalem et il lui dit avec grande éloquence et sans ménagement qu'elle a crucifié le Fils de Dieu. La foule, les gens qui étaient là, des Juifs, mais aussi des gens venant d'autres nations, des Grecs, des gens qui avaient entendu parler du Dieu d'Israël, et qui entendent l'apôtre Pierre et visiblement sont appelés par Dieu à changer de comportement. Et beaucoup d'entre eux furent tellement touchés que non seulement ils se rendirent compte de la gravité de leur péché, mais que très près de se voir perdus à jamais, ils demandèrent à Pierre ce qu'il leur fallait faire. Que devons-nous faire ? Verset 37, acte 2, reportons-nous dans ce livre. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. Actes 2, 37. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous, verset 38, soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le don du Saint-Esprit. Comprenons bien ce que veut dire ce mot, le fait de se repentir. Il dit « repentez-vous ». Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça ne se limite pas à être simplement désolé d'avoir commis une faute, ce n'est pas seulement cela. Il y a évidemment une part de remords, de désolation, Paul l'apôtre en parle. Il s'agit en fait de changer de cœur, de changer d'attitude, de changer de direction dans nos vies. Et cela implique évidemment une motivation qu'il nous faut avoir, qu'il nous faut demander à Dieu pour cesser à tout prix de pécher. Il est normal qu'il y ait ce dégoût en quelque sorte en nous de ce que nous avons fait et en même temps la détermination de ne plus vouloir recommencer de telles choses à l'avenir. David était désolé, certes, mais il s'est aussi repenti sincèrement de ses transgressions et il a décidé de ne plus les répéter. Dieu lui a pardonné et Dieu lui a certainement donné la force et le caractère nécessaire pour ne plus recommencer ces choses. Y a-t-il autre chose que nous puissions faire, que nous devions faire? Comme je l'ai déjà mentionné, Dieu nous demande aussi de pardonner aux autres les offenses qu'ils commettent envers nous. C'est l'explication très claire que nous trouvons dans le modèle de prière que nous a laissé Jésus, le Notre Père, dans Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6. Matthieu 6, et allons directement au verset 12. Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce passage dans la Bible est très très célèbre. Et dans la Bible de Lausanne, il est traduit de cette façon « Et remets-nous nos dettes comme nous les remettons nous-mêmes à nos débiteurs. » Le mot français « dette » est la traduction la plus exacte du mot grec « ophéilema » dans le texte original. D'après ma traduction de l'article publié dans le dictionnaire lexical anglais-grec de William Vine sur ce mot « ophéilema », décrit dans ce verset, ce mot représente la dette qui est réclamée par la loi, la dette morale du péché en tant que découvert bancaire, si j'ose dire, parce qu'il est exigé que ce découvert soit remboursé métaphoriquement, hein, sur un plan spirituel, c'est-à-dire qu'il soit expié et que le paiement soit effectué, au moyen d'un châtiment. Ça, c'est le commentaire du lexique anglais-grec de William Vine. Quand Dieu nous pardonne, il efface totalement notre dette, il efface notre péché, il efface l'amende de la mort qui aurait dû en résulter. Je parle de la mort éternelle. Nous mourrons tous physiquement, mais nous espérons en la vie éternelle à la résurrection. Par conséquent, puisque Dieu nous pardonne, nous devons aussi, nous-mêmes, pardonner aux autres. Dieu est miséricordieux de nature, comme l'indique le psaume 103 que nous avons lu plus tôt. Et au verset 8, il est dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté ». Voilà l'exemple que Dieu nous laisse. Voilà comment nous devons nous comporter dans la vie. Il n'a pas hâte, Dieu n'a pas hâte de nous punir pour nos péchés. Au contraire, il désire nous les pardonner. Nous comprenons que notre Père Céleste est tout à fait en droit d'exiger que nous ayons la même attitude que lui, une attitude de miséricorde envers nos semblables. Jésus nous parle directement de ce sujet dans le même chapitre, Matthieu chapitre 6, mais cette fois-ci au verset 14, il explique en quelque sorte ce qu'il a dit dans ce que nous appelons communément le Notre Père. Il dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi ». Verset 15, la contrepartie, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Combien de fois nos enfants sont-ils partis dans leur chambre, s'enfermer, en colère, déçus ou vexés de se voir punis, par exemple, ils s'enferment ensuite dans le silence ou dans une attitude renfrognée pendant quelques heures ou même parfois, malheureusement, pendant quelques jours. Eh bien, en tant que parents, il nous est parfois difficile, en de pareilles circonstances, de ne pas ressentir, quand les choses se passent de cette façon, une sorte de boule à l'estomac, et de ressasser les événements pendant des heures après. Si nous avons appris à nos enfants à venir demander pardon, ils ne manqueront pas de venir le faire à un moment donné. Et probablement le plus tôt sera le mieux pour eux, de toute façon. Ils le feront pour le soulagement de tout le monde, espérons-le avant que la nuit ne tombe, à commencer par leur propre soulagement. Et Dieu nous demande de faire ces choses. Il nous demande même de faire ces choses, comme je le disais, avant que le soir ne tombe. On dit que la nuit porte conseil, oui, mais la nuit peut aussi nous laisser une nuit blanche. Donc, essayons de le faire. Au lieu de voir cette douleur en nous, essayons de nous réconcilier avant que le soleil ne se couche. C'est très important. Entre mari et femme, nous devrions faire cela systématiquement pour le bien du couple, pour le bien du foyer. Sachons demander pardon. Parfois, reconnaître ses torts, ça sera loin d'être une chose facile. Nous le savons bien. Présenter des excuses, demander pardon, et c'est là probablement l'un des processus les plus délicats dans les relations humaines. Mais Dieu nous dit que c'est possible. Donc chercher à nous faire pardonner sous-entend que nous sommes conscients de l'effet de ce que nous avons fait quand nos actions ont un impact sur les autres. Nous acceptons à ce moment-là notre part de responsabilité dans ce qui s'est passé et nous essayons de remédier à la situation. Quand nous nous sommes trompés, quand notre interlocuteur nous a montré notre tort, c'est difficile, quand nous avons mal réagi peut-être à une plaisanterie ou quand nous savons que le sarcasme auquel nous-mêmes nous nous sommes risqués vis-à-vis de quelqu'un que nous pensions capable de bien le recevoir, mais qui en a été offensé, tout cela va causer une certaine dose de contrariété en nous-mêmes. Nous n'aimons pas cela, nous n'aimons pas qu'on nous fasse des reproches, nous sommes pris en défaut, et parfois, nous ne savons pas comment nous en sortir. Non, ce n'est pas facile d'en venir à dire « Écoutez, je vous présente sincèrement mes excuses, je suis désolé. » Je n'aurais pas dû dire cela, je n'aurais pas dû agir de cette façon. Or, si nous voulons établir de bonnes relations avec nos proches, avec nos semblables, et aussi de bonnes relations avec Dieu, il nous faut passer par cette étape, aussi difficile soit-elle. Il nous faut acquérir cette compétence cruciale, importante. Dieu nous encourage à la réconciliation. En effet, pour Dieu, cette démarche, comme je le disais, est absolument nécessaire. Donc, ne nous leurrons pas. Cette démarche est même si importante que Dieu déclare dans Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24. Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24. Il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, donc si on vient devant Dieu avec, je dirais, un comportement d'honneur, rendant gloire à Dieu, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Autrement dit, ne cherche pas à venir devant moi, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite reviens présenter ton offrande. Donc Dieu nous demande d'aller d'abord devant la personne et de rechercher la réconciliation. Pourquoi est-il si difficile de demander pardon ? Nous autres humains, nous avons un mal fou à admettre nos torts, reconnaissons-le. Nous avons du mal à nous rendre vulnérables en présentant nos excuses. Il faut beaucoup d'humilité. Il faut beaucoup d'humilité. Il ne s'agit pas de renoncer à faire cela, il s'agit de comprendre que cela va nous coûter quelque chose sur le plan de l'orgueil. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que notre orgueil, notre fierté mal placée, finalement, soit en quelque sorte souffrante dans ce processus. Il nous faut rechercher l'humilité. Bon, on nous insulte, eh bien, les choses en sont là. Ne rendons pas l'appareil, par exemple. Ça, c'est l'orgueil. Si plusieurs jours se sont écoulés, il y aurait peut-être, depuis l'offense, c'est ce que je voulais dire, il serait peut-être bon de rechercher l'humilité en jeûnant. C'est une technique qui porte ses fruits. Nous nous rendons compte devant Dieu que nous sommes peu de choses. Nous nous privons d'un repas, de deux repas. Nous cessons de manger et de boire pendant une période donnée, autant que notre santé nous permet de faire cela, bien entendu. C'est un peu, se revêtir d'humilité, c'est un petit peu comme cindre le tablier d'un serveur, vous savez, une terrasse de café. Le serveur a en général, à Paris notamment, un tablier qui va recouvrir tous ses vêtements. Et donc, il vient servir les personnes qui sont là. Nous devons de même nous revêtir d'humilité chrétienne dans tout ce que nous faisons, dans le but de servir notre prochain. Si l'orgueil est omniprésent, comment pourrions-nous nous présenter des excuses sincères? Nous risquons au contraire de nous prendre les pieds dans le tapis, de tout faire échouer. Donc soyons bien sûrs que nous ne sommes pas dans une attitude de fierté, d'orgueil, où nous allons essayer de donner une leçon. Revêtons-nous d'une humilité sincère. Reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous sommes coupables dans bien des cas. Quand nous sommes vraiment désolés d'avoir mal agi, nous éprouvons un remords sincère de nous être comportés comme nous l'avons fait. Nos excuses ne doivent pas se limiter à un simple « Oh, c'est vraiment dommage que vous le preniez de cette façon ». Ça ne va pas arranger les choses. Ce genre d'excuses ne traduit pas notre responsabilité individuelle. Au contraire, cela ne fait que sous-entendre d'une façon sarcastique qu'en fin de compte, nous avions raison de dire ces choses-là. Non, si nous reconnaissons nos torts, alors il est bien préférable de dire tout simplement « Écoutez, je suis sincèrement désolé de ce qui s'est passé, je n'aurais pas dû me comporter de cette façon, je n'aurais pas dû dire ces choses, je réalise que cela vous a blessé à cause de mes propos, c'est de ma faute. » Et en faisant cela, d'une façon ou d'une autre, dans notre façon de nous exprimer, nous admettons notre responsabilité dans cette affaire et dans le même temps, nous faisons un pas décisif dans le processus de réconciliation. Là, ça commence à avancer, les choses commencent à avancer, quel qu'en soit le résultat final. Nous faisons notre part. Oui, cela va nous coûter, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Il nous faut aussi veiller à la qualité de notre sincérité. S'excuser, c'est une chose, mais sommes-nous réellement désolés, au fond de notre cœur? Il y a aussi, cela peut surprendre, mais il y a aussi des moments où il ne faut pas s'excuser. Alors, en tant que chrétien, y a-t-il des moments où il ne faut pas s'excuser? Oui, cela peut arriver aussi. Quand certaines personnes sont offensées ou sont en colère à la suite de ce que vous avez dit et ou de ce que vous avez fait, alors qu'en fait, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous avez simplement dit la vérité, non pas pour offenser, mais vous avez dit la vérité pour rendre compte de ce en quoi vous croyez, en sachant que c'est la bonne sorte de croyance. Vous croyez en ces choses. Résultat, la personne est offensée. Elle ne pense pas de cette façon. Eh bien, présenter nos excuses en pareil cas entrerait en conflit direct avec notre conscience, avec nos responsabilités, bref, avec nous-mêmes. Évidemment, cela ne nous empêche pas de réagir avec bienveillance, avec amour, de dire, par exemple, avec compassion, et dans ce genre de situation seulement, où nous savons que nous avons raison, je suis désolé que cela vous contrarie. Donc, uniquement dans ce cas. Cela ne revient pas à s'excuser, mais cela peut favoriser une amélioration de la relation, bien entendu. Espérons-le. Quand nous avons offensé quelqu'un, il se peut aussi que nous ayons péché contre Dieu, évidemment. Dans ce cas, nous devons nous repentir devant Dieu aussi et régulariser notre relation avec lui. Quand nous présentons des excuses sincères, nous traversons un processus analogue au repentir, à la différence que nous réparons une relation avec une personne au lieu de le faire avec notre Créateur. Donc, résumons les trois étapes nécessaires quand nous cherchons à obtenir le pardon de quelqu'un. Premièrement, nous devons reconnaître que nous avons commis une faute et être bien sûr que nous sommes sincèrement désolés, nous l'avons vu. Il ne s'agit pas d'un remords juste superficiel qu'on éprouve quand on se fait prendre la main dans le sac. Non, c'est sincère. Il y a des choses que je dois changer, donc je reconnais que j'ai mal agi. Il s'agit pour nous de reconnaître que nous avons vraiment offensé, que nous avons vraiment blessé quelqu'un. Nous admettons notre faute et ensuite que nous avons remis nos idées à leur place dans nos esprits. Deuxième étape, il nous faut passer à l'action et demander pardon. Donc cela peut se faire d'une façon officielle, d'une façon sincère, avec une déclaration qui aura beaucoup de poids. Et puis troisièmement, évidemment, il s'agit maintenant, à présent, de bien nous assurer que nous n'allons pas recommencer de telles choses. Soyons sûrs que nous avons changé de comportement. Cela s'appelle le repentir. Il n'y a pas à en avoir honte. C'est quelque chose qu'il nous faut faire de toute façon dans notre vie. C'est parfois difficile, mais il faut le faire. Il nous faut aussi bien comprendre que nous avons le secours de Dieu pour le faire. Dieu nous aide. Le repentir est un don qui vient de Dieu. Il nous faut demander ce don et il nous faut commencer à changer d'attitude. Dieu ne nous laissera pas seuls dans ce domaine. Nous devons donc prendre les mesures nécessaires pour ne plus commettre la même erreur. Hélas, nous avons beau faire les choses, nous ne parvenons pas toujours à nous réconcilier avec les autres, avec une personne offensée. Parfois, l'offense est tellement importante que la personne considérera que la relation avec nous est totalement, définitivement endommagée. Évidemment, cela peut arriver. Une réconciliation n'est pas toujours possible, mais soyons sûrs que nous faisons notre part dans ce domaine. Savoir s'excuser, savoir demander pardon quand c'est nécessaire, rappelons-le, ce n'est pas un signe de faiblesse. Bien au contraire, c'est tout à fait honorable et c'est une qualité, et une qualité rare. Que se passe-t-il quand la personne offensée, quand nous sommes la personne qui a été offensée, qui a été blessée? Nous ne sommes pas non plus invulnérables. Il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 15, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Donc c'est le cas d'une offense qui est reçue, par exemple. Nous sommes humains, nous sommes imparfaits. Donc si quelque chose nous a offensés, notre devoir est aussi d'essayer de réparer les choses, d'essayer d'arranger au moins les choses, même si nous ne sommes pas responsables de cette offense. Nous parlons bien sûr d'une offense suffisamment sérieuse, suffisamment grave, pour que nous demandions en quelque sorte réparation. Il y a eu des cas assez rares, il est vrai, entre personnes censées être chrétiennes, où des gens ont été insultés sur un réseau social, en présence d'autres, bien sûr, qui ont pu voir ces choses. Cela peut arriver, ou même dans une congrégation chrétienne, ou dans une famille, une parole déplacée, mal comprise, une réaction inattendue, choquante. Encore une fois, une personne peut être de mauvaise humeur ou vivre des moments difficiles qui mettent à l'épreuve la patience des gens autour d'eux. Alors comment réagir dans de tels cas? Lorsque nous sommes offensés en public ou disons dans un cercle social ou en présence d'autres, comment réagir? François de La Rochefoucauld disait ceci. Il disait « La vengeance procède toujours de la faiblesse de l'âme qui n'est pas capable de supporter les injures. » Autrement dit, François de La Rochefoucauld disait qu'il nous faut apprendre à supporter les injures. Et l'exemple parfait, c'est l'exemple de Christ, qui de multiples fois pendant son ministère terrestre a effectivement supporté les injures avec de grandes et belles réactions. Bon, alors s'il s'agit évidemment d'un sarcasme inamical, sans grande importance, cela ne vaudra peut-être pas la peine de faire la remarque. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 10, au verset 12, nous lisons que la haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Autrement dit, parfois, il faut couvrir les choses. Ce sont des occasions où nous devrons pardonner, probablement en agissant comme si de rien n'était, en ignorant les choses, en les laissant passer. Gardons présent à l'esprit que Christ nous demande avant tout d'être miséricordieux, d'être des bâtisseurs de paix. Dans Luc, chapitre 6, verset 36, il nous dit « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » Luc, évangile selon Luc, chapitre 6, verset 36. Alors, en revanche, si l'offense est beaucoup plus agressive, si elle est faite en plus en public, dans des conditions vraiment offensantes, ne serait-ce qu'en présence d'une seule autre personne. Il sera alors relativement difficile de ne pas réagir. Mais comment procéder? Comment procéder? Nous parlons d'un cas où celui ou celle qui a proféré une insulte, une injure, une offense, est un chrétien ou une chrétienne. Il faut absolument demander réparation. Il s'agit de notre frère, il s'agit de notre sœur en Christ. Nous devons demander réparation. Il y a des fautes qui sont suffisamment graves pour que nous ayons à en parler avec celui ou celle qui les a commises. Dieu nous demande de le faire. Et dans bien des cas, l'auteur de la faute, la plupart du temps, ne se rend pas compte de ce qu'il ou elle a dit. Et il ne se rend pas compte qu'il ou elle nous a blessés. Il arrive que nous aussi, nous fassions ou nous disions des choses sans réaliser que cela a effectivement offensé quelqu'un. Parfois, les offenses se passent sans que l'offenseur soit vraiment au courant. La deuxième chose à faire, c'est de nous demander si nous allons vers notre frère ou notre sœur avec une attitude suffisamment humble, suffisamment paisible. Se revêtir déjà d'humilité nous permettra d'avoir beaucoup plus de chances de mener à bien une réconciliation que justement la colère ou l'arrogance aurait rendu impossible. C'est bien cette approche humble et chrétienne qui a le plus de chances de donner des résultats positifs. Donc gardons bien ces choses à l'esprit. L'objectif, dans ce cas, n'est plus de remporter la bataille, de gagner une victoire ou de démontrer que nous avons raison, mais il s'agit plutôt de rétablir de bons rapports avec une personne qui nous a offensés, peut-être, mais c'est notre prochain. Quand on présente des excuses, quelle devrait être notre réaction ? Si nous décidons de pardonner, nous faisons bien. Cela signifie qu'avec ce pardon, cette personne qui était en faute ne fera plus l'objet d'aucune rancune, d'aucune réprimande. Nous ne rappellerons plus incessamment ces choses qui se sont passées. Il n'y aura aucun regret quant au fait de pardonner. Cela peut être parfois difficile, cela peut être même parfois très difficile, mais nous n'avons pas le choix, nous devons pardonner. N'oublions pas que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas. À nouveau, Matthieu chapitre 6, verset 14. Mais si nous avons épuisé tous les moyens et que malgré tout il y a une rancune qui subsiste en nous, il n'y a plus qu'un recours ultime. Si nous avons toujours cette rancune en nous, si nous n'arrivons pas pour une raison ou pour une autre, il y a parfois des offenses qui sont tellement graves, tellement grandes, nous en avons vu des exemples, que nous ne pouvons pas oublier que nous gardons une rancune. Il nous faut absolument venir devant Dieu. Il nous faut absolument avoir recours à la prière. Seul Dieu peut nous délivrer de toute rancune, de toute amertume qui reste malgré tout au fond de notre cœur. C'est possible. Il est possible de pardonner les choses les plus graves qui soient, qui ont été faites devant nous. Encore une fois, Dieu nous donne l'exemple magnifique de son Fils. Nous devons toujours être disposés à pardonner. Christ a dit que nous devrions être prêts à le faire jusqu'à 70 fois, 7 fois, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 18, verset 21. 70 fois, 7 fois. Autrement dit, 490 fois. Bon, cela ne veut pas dire que à partir de la 491e fois, ça y est, nous pouvons enfin garder rigueur de la chose. Et je ne connais personne qui s'engagerait à une telle comptabilisation des offenses. Il est au contraire question d'une attitude d'apaisement constant. Malgré la répétition des offenses, nous ne comptons pas cette répétition, mais d'avoir autant de fois que nécessaire ce cœur en nous qui cherche en permanence un moyen de rétablir des bons rapports et de réparer des rapports endommagés ou même brisés. Ces versets nous encouragent à apprendre à guérir aussi de nos blessures. Il arrive pourtant que nous ayons pardonné à quelqu'un et que pour une raison ou pour une autre, la blessure, au fil du temps, s'ouvre à nouveau. Cela peut arriver. L'auteur de l'offense initiale n'y est peut-être d'ailleurs pour rien dans cette réouverture de la blessure. Mais quoi qu'il en soit, voilà que à nouveau la colère ressurgit. Le souvenir de ces choses pourrait ressurgir. Le philosophe britannique Francis Bacon disait ceci. Il disait « Celui qui s'applique à la vengeance garde ses blessures ouvertes. » Donc prenons soin de demander à Dieu d'enlever cette amertume, d'enlever définitivement cette rancune, de faire en sorte que cela ne... Soyons dans le détail dans nos prières. Demandons à ce que nos blessures se referment complètement. Dieu aura miséricorde et il nous permettra de ne plus avoir cette rancune si nous avons cette insistance, si nous croyons fermement que Dieu a ce pouvoir de le faire. Dieu répondra à notre prière et il enlèvera ce ressentiment de sorte qu'il ne ressurgisse plus. Notre Dieu est grand, il est miséricordieux et c'est une véritable bénédiction dans nos vies concernant la paix que nous pouvons retrouver dans nos cœurs. Il importe que nous comprenions bien que pardonner à quelqu'un une offense ne signifie pas que nous ayons à nous placer de nouveau dans la même situation où la personne risque à nouveau de nous offenser. Cela peut arriver. Nous pouvons, nous devrions apprendre des leçons de sagesse à partir des expériences de la vie. Par exemple, je prends cet exemple, si un ami emprunte notre véhicule et qu'il nous le rend endommagé suite à une collision dans laquelle il était en tort, nous allons y regarder à deux fois avant de lui prêter notre véhicule, le véhicule réparé, et rien ne nous obligerait évidemment à le faire. Donc, soyons disposés à pardonner une fois, deux fois, autant de fois qu'il le faudra, pour la même offense même d'ailleurs, et cela demande une patience extrême. Mais cela demande aussi de la sagesse pour savoir ce que nous devons décider dans nos vies, de façon à ne pas nous placer dans une situation où nous risquons de nous retrouver offensés, bien entendu. Non, ce n'est pas facile d'être chrétien. Cela demande des efforts. Mais au final, comprenons bien que Dieu est là pour nous aider. Cela change tout. Et de toute façon, nous savons que ce genre de situation d'offense répétée ne durera pas éternellement non plus. Elle pourrait même cesser définitivement plus tôt que nous le croyons. L'important, c'est de confier les choses à Dieu, de lui confier la situation et de lui en parler dans nos prières et de le laisser agir et de lui faire confiance. Beaucoup d'offenses qui nous sont faites, par simple manque de respect, sont relativement faciles à pardonner. Mais que dire des fautes graves, des blessures physiques, de la maltraitance? Quand la douleur est si intense qu'il est facile de vouloir se venger ou de punir, ou plutôt que de pardonner. Jésus-Christ a vécu dans ce monde sans avoir jamais péché. Et il était venu pour mourir, pour nous tous, pécheurs, à venir, à naître, et ou même ceux qui avaient vécu auparavant. Il est venu mourir pour toute l'humanité, pour que nous soyons pardonnés. En particulier, il est venu mourir aussi pour au bénéfice de ceux qui allaient le tuer. Ce qui est encore plus stupéfiant, c'est que lorsqu'il sacrifia littéralement sa vie, il prononça avec amour, avec un amour, avec une miséricorde difficilement imaginable pour nous, êtres humains, ces paroles. Il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il n'y avait aucune haine en lui. Il comprenait que ces gens-là étaient en quelque sorte victimes de l'adversaire spirituel, donc de celui qui veut détruire l'humanité. Mais lui-même montre son amour et sa mort en tant que lui qui a créé toutes choses au nom du Père était bien plus précieuse que toutes les vies de l'humanité. C'est la raison pour laquelle nos vies sont rachetées et que nous avons, par son sacrifice et par sa résurrection, accès à la vie éternelle. Quand nous nous repentons sincèrement de nos offenses et que nous recherchons la bénédiction, le pardon de Dieu pour couvrir nos fautes, nos péchés, nous devons donc nous engager à suivre les traces de Jésus. et son exemple. Il nous faut apprendre à pardonner. Tôt ou tard dans nos vies, cette façon de vivre nous conduit peu à peu à relever les plus grands défis de l'existence, et peut-être le plus grand d'entre eux, qui consiste à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Dans Matthieu chapitre 6, verset 12, donc dans le Notre Père, il est dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » C'est probablement le plus grand défi qui nous est proposé. Avec Dieu, c'est possible. Les gens prononcent souvent ces mots, tirés du Notre Père, évidemment, sans réellement penser, la plupart du temps, à leur application réelle, pratique, dans leur vie. Parfois. Rien de très étonnant, en effet. C'est une tendance humaine, c'est une tendance qui nous affecte tous, et moi y compris, bien entendu. Mais tôt ou tard dans nos vies, nous devons apprendre à pardonner à ceux qui nous font du mal, à ceux qui nous ont fait du mal. Qu'est-ce que Jésus a fait après avoir enseigné le Notre Père, cette prière modèle? Il a immédiatement réaffirmé l'importance du pardon, puisqu'il a dit, il a insisté en disant « Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Donc c'est à ce point-là important aux yeux de Dieu. Ce n'est pas une chose que nous pourrions prendre à la légère. En pardonnant à ceux qui le mettaient à mort, Jésus-Christ a démontré en lui une sincérité parfaite dans l'expression de ce pardon. Pour nous, avoir cette sincérité de pardon quand quelqu'un nous fait du mal, c'est difficile, surtout dans un monde où le mal, tel que nous le voyons, abonde. Le mal, nous le voyons de toutes parts, mais Dieu nous demande quelque chose qui est possible. Il ne nous demande pas l'impossible, il nous demande seulement de faire ce qui est juste, avec son aide. Il nous promet aussi de nous aider dans notre lutte pour faire ce qui est juste. Donc voici trois suggestions qui peuvent vraiment nous aider à faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, surtout lorsque pardonner devient très difficile. Premièrement, pour pardonner, comprenons bien qu'il va nous falloir du temps, il va nous falloir beaucoup d'efforts. Dire comme Dieu « Je vous pardonne » et ne plus ressasser les reproches du passé, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faudra donc qu'au fil du temps, nous revenions sur cet engagement pour le confirmer encore et encore. Deuxièmement, pardonner ne veut pas dire nécessairement oublier. Si nous commençons à croire que pour pardonner parfaitement, il faut aussi que nous puissions complètement oublier le passé, nous allons nous créer un problème insurmontable. Dieu seul, dans sa perfection, a ce pouvoir de ne plus se souvenir. Et il le dit dans sa parole. Il ne nous demande pas, en quelque sorte, une perte de mémoire sélective. Dieu nous demande simplement de pardonner, y compris lorsque le souvenir de ces choses va revenir, va ressurgir. Dieu, dans sa sagesse, nous a donné une mémoire. Ce n'est pas pour que nous effacions cette mémoire. Il nous demande de nous en servir à bon escient. Par exemple, lorsque aux Israélites, il disait « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, donc dans des conditions très difficiles, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. » Deutéronome chapitre 15, verset 5. Deutéronome chapitre 15, verset 5. Bien entendu, l'intention de Dieu n'est pas de nous voir nous rappeler de souvenirs douloureux, mais il veut que nous nous rappelions que c'est lui qui nous délivre de ces choses. Et c'était le cas dans, bien sûr, l'histoire des Israélites, qui a été conservée pour nous, pour notre gouverne. Et puis, troisièmement, souvent nous entendons des personnes dire que nous devons apprendre à nous pardonner. Vous entendez cela très souvent, c'est très en vogue. Comment se pardonner? Je sais que Dieu m'a pardonné, mais je n'arrive pas à me pardonner moi-même d'avoir commis une telle faute. Il n'est nulle part écrit dans la Bible que nous ayons à nous pardonner à nous-mêmes. Il s'agit d'une idée qui est moderne, qui est chère à la psychothérapie de l'autodéveloppement, mais cela n'a rien de biblique. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Il nous dit très simplement, change de comportement, arrête de faire ce qui est mal. Mais les gens, la plupart du temps, ne savent pas ce qui est mal. Ils pensent le savoir, mais comme ils ne se soucient pas de savoir ce que Dieu en pense, ils commettent, sans toujours le savoir, ce que Dieu appelle le mal, c'est-à-dire la transgression de la loi. Une fois que nous savons ce qui est bien et ce qui est mal selon Dieu, nous savons ce qui va déplaire à Dieu. Donc nous pratiquons le bien, nous changeons notre comportement, nous comprenons que Dieu nous pardonne et qu'il nous donne son accord pour payer l'amende de nos péchés qui sont alors définitivement oubliés. Donc nous n'avons pas besoin de nous pardonner nous-mêmes. Dieu, c'est Dieu qui peut pardonner et c'est Dieu qui nous pardonne dans les conditions que j'expliquais. Notre devoir devant Dieu est alors de nous efforcer de pardonner aux autres comme nous-mêmes nous avons été pardonnés. En conclusion, j'aimerais rappeler 4 points. Premièrement, le fait que Dieu sait pardonner. Il nous donne un exemple. Le pardon de Dieu est un don merveilleux. Dieu est miséricordieux. Et il pardonne totalement nos péchés quand nous nous en repentons sincèrement et quand nous lui en demandons pardon. Deuxièmement, se pardonner les uns les autres, ce n'est pas facile, mais nous devons le faire. Et le processus consiste à présenter ses excuses ou à demander pardon sincèrement lorsque une offense nous est révélée. C'est délicat, mais Dieu nous dit que c'est possible. Il nous donne son aide. Savoir demander pardon est capital. Dieu, troisièmement, nous montre l'exemple du pardon et il nous aide, je le disais. Le poète anglais Alexander Pope disait ceci, « Si l'erreur est humaine, le pardon est divin. » Si l'erreur est humaine, le pardon est divin. Et cela résume bien un important concept. Le pardon s'appuie sur un modèle de comportement divin. Par nos péchés, nous avons crucifié Christ, nous tous, mais Dieu nous propose de nous pardonner. Faisons donc ce que nous devons faire. Cela est possible, Dieu nous le confirme. Et puis quatrièmement, sans l'aide de Dieu, reconnaissons que nous n'y arriverions pas. C'est important. Il faut que nous puissions comprendre cela. Pardonner est souvent compliqué et c'est parfois humainement parlant impossible. Par contre, avec l'aide de Dieu, nous pouvons finalement relever ce défi, avoir à nouveau l'espoir de la vie éternelle avec Dieu en Christ, et cette fois-ci sans qu'il y ait la moindre offense. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent sabbat et je vous dis à bientôt.